Donc bonjour tout le monde. Donc rapidement je me présente, je suis Serge Leblanc, je suis maître de conférence en STAPS, je travaille dans le cadre du IRDEF, hein, du laboratoire de l'UFM Université Montpellier 2. Et puis je dirige une équipe qui s'appelle Travail, Formation et Développement et qui s'inscrit à la fois dans des ancrages d'ergonomie du travail, mais aussi d'ethnosociologie. Hein, je travaille avec des collègues sociologues, par exemple Geneviève Zega qui est dans cette équipe, et d'autres sociologues qui viennent de s'associer à nous plus récemment. Alors j'ai intitulé rapidement là, finalement le titre de cette intervention, potentiel d'usage de néopoisaction. Jouabilité du dispositif, voilà. Donc essayer de discuter un petit peu ces idées-là, d'essayer de voir à partir de quelques premiers recueils de données avec quelques stagiaires, pas beaucoup, mais on pourrait être plutôt sur du très qualitatif, et quelques points de vue aussi de formateurs sur les potentiels d'usage après avoir été confronté à cet espace. Alors à l'époque, il était en version de prototype, puisque c'était aussi pour donner des voies de transformation, d'amélioration en termes d'ergonomie, de navigation, mais aussi de parcours possibles qu'on pouvait proposer pour les gens qui étaient encore dans la phase de conception, puisque c'était avant l'été que ces recueils de données se sont réalisés. Jouabilité du dispositif, parce que l'idée c'est que par l'utilisation de la vidéo, on fait appel à des processus fictionnels, hein, qui mettent en jeu des processus fictionnels, qui permettent aux acteurs de vivre d'une certaine façon des expériences, sans s'y abîmer, sans prendre de risques, de se projeter. De vivre des réalités finalement plus difficiles que, évidemment, pour certains d'entre eux qui n'ont vécu, et donc de se projeter et d'anticiper un petit peu des choses qui potentiellement, évidemment, peuvent rencontrer dans leur métier, et de travailler aussi sur qu'est-ce qui constitue des indices perceptifs, des amorces dans la réalité qu'on leur projette, qui leur permettent de réfléchir, de s'engager réellement dans une activité réflexive sur leur propre pratique professionnelle. Voilà un petit peu l'enjeu de cette présentation de ce matin. Alors, j'ai un premier temps qui va être assez rapide, qui va vous présenter un petit peu dans quelle approche je travaille, quels à la fois artefacts ont étaient déjà conçus et quels résultats un petit peu sont issus de ces premiers travaux. Et puis après, je viendrai directement sur l'utilisation de Néopass, où je vous mettrai en situation de voir vous-même une confrontation de stagiaires et de formateurs à Néopass Action et de vous faire discuter un petit peu dessus pour voir ce qu'on peut tirer de cette histoire-là. Donc, l'idée, là, un programme de recherche technologique qui articule en fait deux observatoires. Un premier observatoire, je ne vais pas revenir dessus, puisque ça a été largement présenté par les collègues, notamment par Luc, hein, observatoire de l'activité en classe et hors classe. Et c'est sur ces bases-là qu'on conçoit à la fois des scénarios de formation et des artefacts. Alors des artefacts, rapidement, je vous en montre d'autres, même si ça peut être été évoqué. Pour ceux qui seraient intéressés, vous avez les liens internet qui sont sur lesquels vous pourriez retrouver ces espaces-là. Un espace numérique qui a été conçu avec une vingtaine de chercheurs, il y a déjà depuis 2002-2004, interactif, permettant d'analyser l'activité à partir de ressources issues de la recherche, donc ancré sur les théories de l'action de la cognition située. Donc avec ça a été conçu, piloté avec Marc Durand et un collègue informaticien, et puis pas mal de chercheurs du groupe actuel qui a été présenté, Luc, Guillaume, Serre, mais aussi d'autres chercheurs, une vingtaine de chercheurs ont proposé à la fois des données qui sont inscrites dans cet environnement-là. Un autre environnement, je crois que vous en avez parlé rapidement, c'est l'ABSD, où il y a deux séquences vidéo qui s'inscrivent dans cette approche des théories de l'activité, hein, avec deux thématiques. Alors là, c'est plus ponctuel, hein, une sur les problématiques des difficultés de gestion de classe par des PLC2 à l'époque, en petite section maternelle, mais où il y a des autoconfrontations. Séquence qui a été développée par Hélène Marquier, qui fait partie de mon équipe à TFD. Et puis moi, j'ai fait aussi Sana, là, avec un prof de physique très expérimenté, vous voyez, avec un triple regard sur une même séquence, accès à la conscience pré-réflexive, et avec un montage de l'acteur lui-même en parallèle du déroulé de la vidéo, point de vue d'un autre prof de physique et point de vue d'une chercheuse, là en l'occurrence c'est Dominique Bucheton. Donc ça s'appelle les implicites de l'activité, mettre les élèves en... Donc ça c'est en accès libre, hein, vous connaissez sans doute à partir de ce site du CRDP de Montpellier. Donc c'est un travail en convention avec l'UFM de Montpellier. Bon, et puis évidemment Néopass Action, dont que je vous présente pas. Voilà, c'est très simple, hein. Si vous allez sur ce lien-là, vous avez une page de présentation, mais vous n'avez pas accès direct aux vidéos. Pour avoir accès, vous cliquez dessus et ça ouvre une page avec une demande de login. Vous donnez votre adresse et ça génère automatiquement une adresse qui vous est envoyée dans votre messagerie. Et puis après, vous pouvez vous connecter. Hein, c'est juste un filtre, mais n'importe quelle adresse est acceptée en fait. Hein. Majoritairement, ce sont des vidéos. Il y a au moins une bonne trentaine de vidéos qui sont en primaire. Oui, c'est normal. C'est École nationale de voile et des sports. Oui. Alors après, il faut aller. Le problème, c'est que je vous ai pas mis l'adresse complète parce que c'est une adresse avec 50 caractères, qui tiendrait pas là-dedans. Il faut que vous alliez dans le centre de ressources, d'accord ? Et dans le centre de ressources, vous verrez. Vous retrouverez le CD-ROM qui s'appelle « Réfléchir les pratiques ». Voilà, je ne l'ai pas mis là parce que ça me semblait un peu lourd. Voilà, non, mais c'est très bien, ça montre... Voilà. Bon, Néopass, je ne reviens pas dessus, je pense que ça a été largement présenté. Alors, moi, ce qui m'intéresse autour de ces usages de la vidéo, c'est à la fois des questions pragmatiques d'utilisation en formation, évidemment, et de scénarisation de ces artefacts-là dans des situations de formation, et évidemment des questions de recherche autour de l'utilisation de ces médias. Alors depuis longtemps, on sait que, notamment les travaux de Linard, Monique Linard et Prax, ont travaillé sur ces questions-là, il y a déjà dans les années 70-80, pour montrer que, évidemment, la vidéo constitue un artefact très fécond pour enrichir les environnements de formation, un catalyseur puissant accentuant les potentialités individuelles et collectives, que ça permettait aussi, si on s'appuie plutôt sur les travaux de Pastré, sur les situations de simulation, finalement, on réussit à reconstruire des simulations d'une forme de réalité professionnelle à partir de la vidéo. Ce qu'ils font dans d'autres, évidemment, dans d'autres environnements, à partir de simulateurs virtuels en 3D, etc. Sauf que pour l'instant, on n'a pas les moyens à l'éducation nationale pour faire ce type de projet-là. Mais en gros, les pistes sont les mêmes. C'est comment anticiper des situations de travail en contexte par rapport à des choses qui vont être nouvelles. Alors forcément, quand on est en formation initiale, quasiment tout est nouveau, hein, mais aussi comment anticiper sur des situations à risque. On va pas comment former à gérer des conflits entre guillemets. Voilà, tant qu'on n'en a jamais géré soi-même, hein, vécu soi-même. Donc c'est des modalités évidemment qui permettent d'apprendre. En tout cas, c'est cette hypothèse là qui est faite à partir de ces simulations. Alors, c'est un autre aspect aussi qui me semble intéressant, c'est de pouvoir finalement encadrer et limiter d'une certaine façon les risques de pratiques vidéoscopiques sauvages liés au développement, évidemment, du tout numérique. Hein. Au jour d'aujourd'hui, dans les UFM, enfin en tout cas dans beaucoup de centres de formation, beaucoup de formateurs peuvent évidemment font d'ailleurs des enregistrements vidéo, les stagiaires aussi, mais souvent sans peu de recul ou peu de précaution par rapport à ces usages-là. Il me semble que avec les travaux que l'on mène et ce type d'environnement conçu, il y a des enjeux là pour au moins donner des pistes de cadrage par rapport aux risques potentiels que peuvent constituer des utilisations plus sauvages de la vidéo. Notamment quand il s'agit de travailler sur la vidéo des acteurs eux-mêmes. Hein, ce qui n'est pas le cas évidemment dans ce qu'on aborde. Mais justement, c'est un moyen intéressant, un peu détourné, et qui est sans doute un bon un élément de préparation pour éventuellement aller vers des pratiques où les acteurs sont impliqués dans l'analyse de leurs propres pratiques. Évidemment, ça soulève des questions, enfin réfléchir là-dessus, forcément des questions éthiques, du rôle, puisque les travaux de l'INAR, par exemple, ont bien montré potentiellement le pouvoir que pouvaient tirer les formateurs de l'usage de la vidéo. Mais pouvoir souvent versant sur un côté négatif. C'est-à-dire que ça lui permettait évidemment de se positionner et de maîtriser un groupe, mais évidemment au détriment, en détruisant une partie de la personnalité des acteurs qui étaient en face d'eux. Les travaux sont assez contrastés justement sur les usages de l'autoscopie, où ils montrent bien que les résultats montrent autant le potentiel positif que négatif de ces utilisations. Bon, évidemment, ça pose la question, quel scénario d'usage en formation quand on a des ressources de ce type, type NEOPAS, type la BSD, type réfléchir les pratiques, qu'est-ce qu'on en fait en formation? Donc ça, éventuellement, on pourra revenir dessus, éventuellement cet après-midi, sur cette question-là, parce que je ne vais pas trop aborder la question de la scénarisation en formation. Et puis ça soulève évidemment des questions de recherche, c'est-à-dire de se demander finalement quels sont les processus qui sont en jeu quand on met les acteurs face à une vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un petit peu là-dessus sur quoi je m'engage, avec l'idée que là, c'est penser les situations de formation comme des processus fictionnels. C'est qu'on engage les acteurs dans une fiction qui leur permet de s'immerger, qui leur permet de faire comme si ils sont spectateurs finalement. Ça a à voir aussi avec l'activité de spectateur quand on est devant un film. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans un film? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y rentre pas? Donc tout le problème de la scénarisation des situations de formation, il est dans ces... Et évidemment, qu'est-ce qu'on construit comme apprentissage à partir de processus, finalement, qui sont des processus plus de mimétisme, hein, ou qui sont souvent écartés des situations de formation, alors que on sait bien, de manière anthropologique, que processus mimétique fonctionne évidemment très fortement chez les enfants, mais continue à fonctionner évidemment chez les adultes. Et c'est des pistes qui sont relativement peu, en tout cas dans nos cultures, peu explorées, voire écartées dans les dispositifs de formation. Bon, voilà, c'est investir un petit peu ces orientations-là. Alors, oui, je me rends compte que j'ai pas fait... Voilà, donc là, j'étais là-dessus. Donc, à partir de ça, observatoire de l'activité en formation, et pour essayer d'identifier un petit peu les effets sur l'activité en formation de la confrontation à ces situations plus ou moins scénarisées en collectif. Donc, c'est ce que je vous présente rapidement, sur des situations qui peuvent être variées. On a étudié des situations qui sont des situations de groupe, vous voyez, dans des formations transversales ou dans des formations disciplinaires, sur une vingtaine, une quinzaine de stagiaires à l'époque. Et puis là, vous voyez Luc, je pense que ça a été évoqué par Guillaume, en amphi devant une centaine de PLC2, voilà, qui fait un cours en amphi, mais structuré à partir de pas mal de vidéos. Hein. Donc voilà, il y a ce type de situation que j'appelle d'allo-confrontation collective. Donc on est confronté à des vidéos de pairs, mais qui sont pas présents, évidemment, dans le dispositif de formation, à différencier des situations de type autoconfrontation individuelle ou collective, où là, la différence, c'est que les acteurs qui se retrouvent à l'image sont présents dans la situation. Évidemment, vous comprenez bien que c'est pas la même situation, que ça génère des processus potentiellement très formateurs, mais aussi des processus de défense, de... voilà. Alors, j'aborderai pas trop ce versant-là, puisque c'est pas trop les possibles coffres, mais éventuellement, si vous êtes intéressé, on pourra l'évoquer cet après-midi. Voilà. Et donc, moi, j'étudie de la même façon que ça vous a été présenté. Je vais pas revenir sur le cadre d'analyse, hein, puisque j'appréhende finalement l'activité en formation de ces différents acteurs, là, dans ces différentes situations. À partir, ces situations sont filmées. Ces situations de formation sont filmées et je mène des entretiens d'autoconfrontation pour accéder à leur conscience pré-réflexive. Quand ils regardent une vidéo, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, etc. Donc je les fais commenter ça. Et c'est assez instructif parce qu'évidemment, on ne sait pas trop. J'accède à des choses, évidemment, qui ne sont pas du tout, la plupart du temps, qui ne sont pas évoquées en situation de formation. Mais malgré tout, c'est leur activité, une partie de leur activité, évidemment, dans la situation. Voilà, donc vous retrouvez un peu quelques éléments là d'analyse que je ne vais pas redévelopper parce que ça vous a été présenté par, je crois, par Guillaume et par Luc. Alors, effet de différentes formes. Là, je vais juste vous présenter une... J'ai pas d'heure. Ah oui, mais avec le contre-jour, je ne vois pas. 9h, d'accord. 9h30. Je vais quand même vous présenter 3-4 minutes là de vidéo, c'est un montage sur un dispositif que j'ai analysé pour vous voyez un petit peu une utilisation par un collègue.
Bon, donc c'est...
Voilà, qui est en fait un prof de philo en UFM qui a en charge un groupe de formation transversale. Qui faisait habituellement ses cours, évidemment, plutôt de manière interactive, mais qui n'avait jamais utilisé la vidéo. Et en même temps, il était intéressé pour le faire. Voilà. Et donc là, c'est la première fois où il met en place ce type de situation à partir d'extraits vidéo, d'ailleurs, qui sont issus du premier logiciel dont je vous ai parlé, là, Réfléchir les pratiques. Donc c'est un petit montage qui dure 3-4 minutes, où vous allez avoir, alors que la séquence de formation évidemment dure 3 heures, donc ça sera très ramassé, mais c'est pour que vous ayez un petit peu une image de... C'est sur ces bases-là que on a produit quelques résultats sur les effets un peu... les effets en termes d'activité sur les stagiaires.
C'est dans le cadre d'un stage de pratique accompagnée. Lors d'un cycle de gymnastique, c'est la deuxième leçon, un cycle de 8 leçons. Voilà, c'est une classe avec 10 filles et 11 garçons, de 5e dans un collège de ZEP. C'est une séance consacrée à la maîtrise du salto avant. Et je vous laisse découvrir la suite.
En gros, c'est bien pour terminer le conflit. Moi, je pense que c'est il marque bien la fin du conflit.
Ouais. Cas,
ça, c'est un point important. C'est là qu'on voit qu'il a tout de suite de l'expérience, quoi. Comme il stoppe le conflit, c'est net, c'est clair et précis. Quoi.
Mais ça, le bémol, c'est que ça aurait pu être mieux réparti entre les deux.
Voilà. Mais par exemple, je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. C'est totalement l'inverse du premier, en fait. Quoi.
Ouais.
Tu t'assois pas.
Voilà. Parce que tu es l'inverse. Ouais.
Peut-être ça aussi.
Voilà, donc une petite vision de ce qui est produit. Alors, vous avez compris que le formateur, après avoir une présentation rapide, collective, a quelques consignes, mais assez ouvertes, à disperser le travail en petits groupes. Évidemment, après, il y a un travail de synthèse que là, qui n'est pas présenté ici. Et qui a eu deux extraits qui ont été travaillés. Alors c'est intéressant, je pense, cette vision-là, de travailler au moins, à minima, sur deux façons de faire un petit peu contrastées autour d'un même objet d'étude, puisque là, on voit bien qu'il y a des choses qui se construisent entre les comparaisons des extraits. Alors ces extraits sont issus d'un travail de thèse qu'a fait Éric Flavier, dans les années, je sais pas, 2000, un peu avant, non, après, 2002-2003, et qui ont fait l'objet qui d'une production d'une vidéo avec Jacques-André Meillard. Donc ça, c'est extrait de cette vidéo, et ça a été repris dans le logiciel Réfléchir les pratiques. Et là, les stagiaires sont des stagiaires, c'est pas des stagiaires EPS, hein, c'est des stagiaires en formation transversale. Là, il y a des profs de français, de maths, etc. Voilà. Alors, on aura peut-être l'occasion de discuter là-dessus. Ce type de situation, alors j'en ai d'autres que je pourrais vous montrer. Là, c'est un collègue de techno, mais bon, je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus. Où c'est une scénarisation différente, hein, où il arrête la vidéo à un moment donné, avant qu'il se passe quelque chose. Et là, il fait un travail de projection, d'anticipation sur... Finalement, qu'est-ce qui va se passer? À la place de l'enseignant, qu'est-ce que vous feriez? Et donc, ça fait travailler sur tous les indices perceptifs, évidemment, en amont. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, on voit évidemment, le monde des différents acteurs n'est pas le même en fonction de ce qu'ils ont pris en compte dans la situation. Alors, de toute façon, dans tous ces dispositifs, ce que l'on récupère et ce que l'on tire comme analyse, évidemment, de manière assez récurrente, c'est que dans tous ces dispositifs, ça permet de fortement rassurer les enseignants, puisque là, vous avez compris, hein, ces enseignants en formation initiale. Alors ça revient de manière très, très récurrente dans toutes les verbalisations en autoconfrontation, hein. Puisqu'ils ont toujours l'impression d'être tout seuls à vivre des choses de ce type-là, et ils se rendent compte qu'évidemment que c'est pas le cas. Et du coup, ça fait un espace d'échange, d'interaction, évidemment, important. Alors on voit que systématiquement, évidemment, ça active des rappels d'expériences personnelles, même quand ils en ont pas beaucoup, hein, même quand c'est leur premier mois d'enseignement, ils font toujours des connexions avec leur pratique personnelle. Alors évidemment, ça, c'est pas forcément, échangé dans les espaces de formation. Alors ça l'est plus, vous avez vu, quand ils sont en petits groupes. Quand ça reste tout le temps en grand groupe, évidemment, ça se limite à quelques-uns d'entre eux. Mais quand on travaille avec eux en autoconfrontation, évidemment... et qui nous dit, ben là, à ce moment-là, quand je vois la vidéo, quand je vois ça dans la vidéo, ils explicitent un petit peu ce qu'ils voient tout en voyant, tout en voyant l'autre. C'est pour ça que j'ai intitulé « Voir l'autre comme soi-même ». Hein. Au travers de la vidéo d'un père, ils voient leur propre pratique. Donc, ça révèle évidemment des aspects de leur propre pratique. Ça met à jour des difficultés qu'ils n'avaient pas bien identifiées ou qu'ils avaient du mal à nommer. Ça met à jour souvent des tensions entre ce qu'ils font, ce qu'ils aimeraient faire, vers quoi ils voudraient aller, les conflits, hein, qu'ils vivent en tant qu'enseignants, évidemment, qui démarrent dans le métier. Ça permet de bien les mettre à jour. Ils recherchent aussi beaucoup de... Hein, il y a une activité exploratoire, de recherche de ressemblance dans la situation, dans les façons de faire, dans les... Donc là, on voit bien que les processus de mimétique fonctionnent de manière importante. Et ils construisent un certain nombre de connaissances, d'interprétations nouvelles sur des situations, évidemment, à chaque fois dans les propositions, des scénarisations de formation, ce sont des situations assez typiques qui restituent des difficultés d'entrée dans le métier. Et donc, ça leur permet de construire des connaissances là-dessus. Et puis, il y a évidemment, de manière plus large, une interrogation sur leur développement professionnel, sur même qu'est-ce que c'est que le métier. Est-ce que, bon, vous avez vu une petite allusion dans l'extrait, là, très rapide, c'est quoi mon métier ? Est-ce que je dois aussi faire ça dans mon métier ? Voilà. Et du coup, forcément, c'est des choses qui sont intéressantes à exploiter sur... Et il me semble que là, évidemment, c'est des choses qu'on va retrouver fortement, et je pense de manière encore plus documentée, plus riche, évidemment, sur à partir de la plateforme, des usages de la plateforme Neopass Action. Alors, si vous voulez bien, on va se focaliser maintenant sur les usages de Neopass Action, enfin quelques premiers usages de Neopass Action. Donc là, c'est simplement pour comprendre un petit peu ce que je vais vous montrer tout à l'heure à la vidéo, et ce sur quoi je vous ferai échanger un petit peu. Là, j'ai pas fait d'autoconfrontation pour que ce soit moins lourd. J'ai associé, enfin, je me suis associé à l'exploration libre par des stagiaires, donc des PLC2 à l'époque, qui sont actuellement néo-titulaires, qui étaient d'accord pour consulter la plateforme, qui était une plateforme version prototype. Hein, il n'y avait pas tout, il n'y avait que 3 vidéos sur l'ensemble, etc. Mais il y avait quand même pas mal de choses à explorer. Donc, de consulter librement la plateforme. Et moi, je lui demandais de produire des verbalisations simultanées, et je l'interrompais de temps en temps pour lui faire expliciter un petit peu ce qu'elle était en train de faire, ce sur quoi elle se focalisait. Voilà. Donc, c'est ce que vous verrez un petit peu. Moi, on ne me voit pas dans le champ, mais évidemment, le discours qu'elle adresse, c'est à moi qu'elle l'adresse en tant que chercheur qui lui demande de commenter un petit peu ce à quoi elle pense, ce qu'elle fait quand elle explore la plateforme. Non, cette stagiaire-là, je la connaissais pas du tout. C'est simplement, j'ai envoyé un mail collectif à l'ensemble des PLC2 en fin d'année. Alors, c'était difficile d'avoir du monde parce que c'était au mois de fin juin, donc c'était déjà presque en vacances. En présentant rapidement l'intérêt potentiel de Neopass, et en disant s'ils étaient intéressés. Moi, j'étais intéressé. Donc ça, c'est fait début juillet. Voilà, et c'est une néo-titulaire qui était intéressée, elle, parce que elle savait qu'elle était nommée à l'ASCAS, donc un collège, un établissement sur Montpellier, classé en rare. Voilà. Donc je vais vous montrer un premier bout de cette... Alors là encore, c'est un montage. Cette exploration avec Chloé, là... a duré une heure trente. L'exploration avec les commentaires associés, évidemment. Et là, je vais vous présenter un montage qui va durer, qu'on va voir en deux fois, qui va durer une dizaine de minutes, 11 minutes, je crois. Donc, 2 fois 5 minutes. Donc, forcément, c'est très ramassé. J'ai essayé de choisir quand même des extraits un peu significatifs. Donc, un premier temps où je vais vous montrer... la consultation de la vidéo de classe de Romain, que vous avez dû sans doute voir déjà, je pense, avec Luc, et de son autoconfrontation, et de ce qu'elle fait en voyant ça. Et puis après, on verra comment elle exploite les commentaires d'enseignants plus expérimentés, et ce qu'elle en fait aussi. Voilà, et puis je vous demanderai un peu votre avis sur sur son activité, et puis évidemment on discutera, on débattra sur les intérêts, les limites évidemment de ce type d'utilisation.
Je rappelle que vous devez entrer, vous devez venir debout devant vos chaînes. Un manque de respect.
Ça va. Alors, comme tous les élèves sont rentrés et que certains s'asseyaient, d'autres non, je me suis dit qu'il n'y avait pas de rituel de classe, et donc... je trouvais ça, ça m'a fait sourire. C'est vrai que le coup du sac qui se promène à droite à gauche, c'est courant et rigolo. Par contre, finalement, je me rends compte qu'en fait, ici, il y a bien un rituel de classe, mais qu'il n'est pas respecté par les élèves. Donc là, tout de suite, je suis très impatiente de voir comment il va s'en sortir après avoir laissé les élèves faire un peu ce qu'ils voulaient pendant 5 minutes avant d'essayer d'imposer son rituel, enfin d'inviter les élèves pour l'instant à son rituel. Donc je pense que c'est un peu mal parti pour le début du cours quand même. Je suis un peu inquiète pour lui au début. Alors, si j'étais là...
C'est-à-dire à la place de l'enseignant.
Oui, mais disons que bon, j'aurais pas réagi, j'aurais pas attendu autant quoi. Donc là, c'est vraiment, si je me mets dans sa peau, là je le vis mal. Hein. Je le vis très mal parce que j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on estime que notre seule présence devrait suffire, mais en fait non quoi. Donc j'attends un peu du pire, je sais pas trop ce qu'il va faire. Moi personnellement, à l'arrivée là, je fais ressortir tout le monde, je fais rentrer tout le monde, mais bon. Au bout d'un moment, quand même, ça se calme, hein, finalement. Et je trouve que finalement, c'est pas mal, ça, je retiens. Vous faites pas les élèves, je fais pas le prof. Bon, finalement, ça semble assez cohérent par rapport à l'attitude qu'il a pu tenir depuis le début. Et là, on voit que ça marche quand même. Apparemment, ils ont envie d'avoir un prof quand même.
Une classe assez difficile. Ils ont un niveau extrêmement faible après 3 ans d'allemand. Donc voilà, j'arrive avec une classe qui a un héritage un peu lourd.
Le fait que la classe soit difficile, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la classe soit difficile? C'est assez gênant parce que finalement, une classe, elle peut être difficile dans un endroit, pas dans un autre, avec un enseignant, pas avec un autre. Ça sous-entend que lui, en tout cas, il estime que cette classe est difficile. Donc finalement, lui, déjà, il doit avoir une certaine appréhension dans la façon dont les choses vont se passer, sachant que c'est l'après-midi en plus. Mais bon, moi je trouve l'information capitale là-dedans, c'est qu'ils sont pas en réussite. Hein. Moi je pense que c'est ça le plus important.
D'accord.
Je me mets à distance comme ça pour leur montrer que j'attends le silence. Parce que depuis l'année, je partais du principe qu'on commence un cours dans le silence, dans le calme, la concentration.
Alors. Je pars du principe que travailler dans le silence, c'est important, etc. Je suis d'accord. Mm-hmm. Par contre, si ça prend 3 quarts d'heure, je suis plus d'accord, quoi. Parce que finalement, même s'il arrive à avoir le silence à la fin, ça serait un silence de façade. Mm-hmm. Dès l'instant où il va rentrer dans le cours, c'est-à-dire sortir ses papiers, dire « Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ?» Ça va, le bruit va continuer. Mais oui, je pense que si le silence ne se met pas en place dès le début, dans les 5 premières minutes, quoi, c'est... Même si on arrive finalement à avoir le silence, je pense que ça sera biaisé par la suite, quoi. Je pense qu'il faut peut-être mettre en place une stratégie différente pour capter l'attention des élèves.
Mon métier soit agréable. Je fais ce métier parce que je l'aime, et il faut que ce soit agréable, quoi. Donc j'ai pas envie de m'énerver.
Bon, alors là, je trouve que c'est intelligent la façon dont il explique. Moi, je partage son point de vue, quoi. Non seulement s'énerver, alors lui, c'est parce qu'il se sent pas crédible dans ce rôle-là. Moi, je pense que de toute façon, c'est ce que les élèves attendent. Et là, pour le coup, c'est nous qui rentrons dans le jeu de l'élève. C'est plus à l'élève de rentrer dans le jeu du prof. Mmh. C'est nous qui rentrons dans le jeu de l'élève. Donc, et puis, en plus de ça, ça veut dire que s'il s'énerve et que ça marche encore pas, mais là, ça veut dire qu'il a plus. Enfin, tu sais, il peut plus rien faire, quoi. Il a plus de bottes secrètes, il a plus rien. L'impression de donner l'image de quelqu'un qui attend le silence et qui finalement s'en fiche, très bien, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que dans son langage corporel, c'est pas ça qui ressort quand même. Hein. Il a le visage très fermé. Moi, je trouve que en tant qu'élève, là, je me dirais, il sait pas quoi faire. Il voit bien que ça marche pas. Donc, du coup, on va attendre de voir ce qu'il va tenter, quoi. C'est pas une. Je trouve que c'est pas une attente tranquille.
Toi, ça dure un trimestre, le premier trimestre. Au deuxième, ça s'est mieux passé. Parce que voilà, j'ai compris qu'il fallait un peu plus miser sur les contenus.
Je trouve que c'est intéressant parce que ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur la sensation d'échec des élèves, quoi. Qu'à partir du moment où il a adapté ses contenus et où il était dans la quête de support qui accroche, etc., les élèves ont été plus réceptifs et se sont sentis plus en sécurité en rentrant en cours. Et bon, donc c'est quand même une piste. La piste, quoi. Enfin, moi, je pense que je suis d'accord avec lui. C'est par le contenu que ça doit fonctionner. Sinon, ça fonctionnera pas, quoi.
On ne devait pas forcément exiger le silence pour se mettre au travail. J'ai fait certains cours qui ont démarré tout de suite en distribuant le travail alors que les élèves n'étaient même pas encore assis.
Ça, je trouve que c'est une stratégie intéressante aussi, hein, de tout de suite passer par l'écrit, quoi. Puis il y a plein d'élèves qui sont assez dispués, qui demandent en plus ça. Ça les aide
on va arrêter de saouler le monde, quoi, de saouler eux-mêmes d'ailleurs souvent. Alors là, je prends Anne.
Je trouve impressionnant comme elle arrive à. Et de voir quelles stratégies les élèves vont pouvoir adopter. C'est comme si de les voir. Elle arrive à anticiper, à vraiment prendre cette distance et à voir qu'est-ce qu'ils veulent lui faire faire à lui et comment est-ce que lui tombe dans le panneau ou pas.
Oui, enfin, j'ai rien d'extraordinaire. Je dis, elle prend aussi le point de vue donc de l'enseignant et elle navigue bien. Elle se met en fait à la place de chacun des acteurs de l'action. Elle est assez impressionnante dans son analyse, je trouve, et elle a déjà une maîtrise. Bon, elle met les savoirs en première condition de la réussite de la classe. C'est quand même assez pour quelqu'un qui débute. Elle est capable. Elle a la conscience d'un rituel, l'importance de. Et elle est sans arrêt en train de confronter sa pratique. En fait, ça lui permet d'un effet miroir sur sa pratique. Et elle analyse donc à travers Romain, ce qu'elle sait faire, ses propres conceptions, ses représentations et ses propres conceptions qu'elle arrive à faire émerger d'une façon assez impressionnante. Je trouve qu'elle a déjà une expertise qui est déjà assez performante, quoi. Enfin, elle a une analyse déjà assez pointue pour quelqu'un qui débute, oui.
Il me semble que cette expertise, hein, on pourrait se dire, cette jeune collègue, c'est une très bonne collègue, quoi, une future collègue qui a déjà pas mal de compétences, mais c'est là aussi qu'on voit la plus-value de la vidéo, c'est-à-dire l'arrêt sur image permet de prendre le temps de discriminer un certain nombre d'informations, de prendre des indicateurs de comportement d'élèves qui, en retour, permettent de porter un jugement sur l'efficacité ou l'inefficacité, et donc de problématiser une difficulté qui peut être plus facilement identifiée avec une trace objective. C'est-à-dire qu'on lui aurait montré la vidéo et on aurait coupé le film et on lui aurait demandé de dire ce qui s'était passé, etc., sans le support vidéo permettant d'y revenir et puis du coup de remettre en perspective, ah tiens, ça d'accord, alors ça me fait penser à ça, etc. C'est une espèce de dynamique d'analyse qui est propre aussi à la vidéo. Et là, on voit que finalement, le chercheur y relance pour avoir des précisions, mais il n'est pas tellement. Il n'interagit pas de manière surplombante pour guider les choses. Quoi. Avec la vidéo, ça permet vraiment une verbalisation qui est tout de suite très riche. Et moins sur la représentation que les gens se font ou croient se faire de ce qu'ils ont vu ou ressenti. Il me semble que là, on voit bien ce pointing-là. Avec la main, on montre sur l'image, on prend à témoin l'autre en disant, tu vois, c'est cet indicateur-là que je retiens. Hein, il y a ces éléments, on va sur l'image avec la main, on montre ce geste de démonstration pour convaincre l'autre de partager la même interprétation. C'est quelque chose qui est spécifique à la vidéo. Il me semble que là, la caméra permet de bien voir ça.
Dit autrement, est-ce qu'elle est bonne et donc elle est singulière, ou est-ce que c'est la situation qui fait surgir chez un collègue débutant une expertise qu'on ne soupçonnait pas ? Enfin, ça pourrait être une vraie question à discuter.
J'ai l'impression que le fait qu'en même temps il y ait cet entretien d'autoconfrontation est un élément facilitateur du langage de cette jeune femme qui commente la vidéo. Je pense que s'il n'y avait pas l'entretien de confrontation, ça serait déjà plus difficile pour elle de se situer par rapport à un discours de commentaire qui est déjà en mots quelque part. Donc c'est facilitateur. Alors ce qui serait intéressant... et peut-être est-ce que cela a été fait, c'est de savoir si tous les stagiaires deviennent aussi bons que cela face à ce type de vidéo, parce que là, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui montrerait à quel point ce dispositif a une valeur formative très forte. Ou bien, est-ce qu'effectivement, on se retrouve avec quelqu'un qui représente, disons, comme ça, à vue d'œil, les 10% des stagiaires qui sont toujours... capable de faire des choses comme ça en analyse de pratique ou enfin en toute situation.
La question que je me posais, moi, c'était la question de la conformité de son langage par rapport à ce qui est attendu de la personne qui est à côté d'elle. Elle est à côté d'un chercheur. Je sais pas, j'aurais bien aimé Enfin, je pense que si à côté d'elle c'était un parent d'élève, si c'était un collègue chevronné, si c'était le chef de l'établissement, si c'était voilà, quelqu'un qui a un autre rôle, un autre regard, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont totalement induites par la situation et l'écoute.
Ce qui me semble, enfin, à la fois, enfin, la question de l'adressage de ce qui est dit selon l'endroit où on est et selon ce qu'on est en train de faire, c'est des questions qu'on reprendra, je pense, avec Yuri, un peu dans une autre façon d'entrer. Mais évidemment, la question de l'adressage des discours selon les situations, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment important, quoi.
Oui. Moi, je me pose une question. On voit effectivement une enseignante qui construit une expertise dans la lecture d'une vidéo. Je me pose la question de savoir quelle expertise elle construit dans ses compétences professionnelles. Là, effectivement, on observe une enseignante qui vraisemblablement n'a jamais été confrontée à ce genre de situation. Et je voudrais savoir si votre recherche, effectivement, permet d'identifier les compétences professionnelles qu'elle construit.
Enfin oui, je vais bien repartir sur ce point qui était, j'en avais 4 ou 5 et celui-là faisait partie des points. Tout le monde s'accorde à considérer qu'elle a une jolie expertise dans la capacité à analyser les images et finalement à se révéler au travers de Romain. Je trouve que là il y a quand même un potentiel fort dans cette première vidéo, à voir comment la vidéo d'un autre de débutant favorise cette révélation de soi. Avec ses interactions permanentes, ses comparaisons, ses ressemblances, dissemblances. Mais après, je pense qu'on peut vraiment avoir, on peut développer une expertise à analyser son activité et être complètement débutant et avec un niveau de débutantisme dans l'agir professionnel. Enfin, je crois que c'est on le voit très souvent, des gens qui sont très pertinents, très lucides dans l'analyse et qui, manifestement, dans le déroulement même de leur activité professionnelle sont vraiment encore très débutants. Donc on voit ces décalages-là entre la compréhension de ses actions et ses actions. Il me semble que je ne peux pas vraiment dire comment elle est prof dans la réalité même de ses activités. Mais c'est quand même une compétence qui me semble tout à fait importante. On en a déjà discuté hier. C'est bien cette conscience de soi dans l'exercice professionnel qu'elle développe manifestement et qu'elle va pouvoir certainement avoir... tout au long de sa carrière. Enfin, je crois que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait important comme compétence, quand même. De façon plus rapide, ce qui m'impressionne ici, alors, à la fois, c'est l'adressage, parce que c'est pas une situation d'auto-confrontation ou d'auto-formation, hein, on avait mis ça en avant, puisque là, l'adressage à un chercheur crée vraiment un dialogue, même si le chercheur répond peu, mais par ses acquiescements, son empathie, son regard, on sent qu'il est présent. Et donc là, moi déjà, manifestement, j'aurais tendance à dire que ça met en avant la nécessité d'avoir un formateur ou un accompagnant, ou en tout cas un médiateur, parce qu'elle serait seule devant la vidéo en train de regarder dans un discours intérieur. Je suis assez convaincu qu'on n'irait pas là, quoi. Donc il y a vraiment une valeur ajoutée liée à l'adressage, quitte éventuellement à mettre deux paires ensemble. Enfin, faudrait réfléchir aux modalités, mais cette capacité à controverser et à mettre en mots son propre raisonnement en regardant, enfin en tout cas en effectuant ce jeu de miroir me semble intéressant. Je voulais dire... dernier point, je suis depuis hier soir en train de réfléchir au top 10 des vidéos les plus consommées sur Neopass. Et je prends un peu peur et j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté par rapport à ce qu'on voit ici, enfin mon raisonnement rapide. Les 10 vidéos les plus fréquentées. Vidéo de classe, Romain, activité 1. C'est dans l'ensemble de la plateforme, celle qui manifestement a été... Il y a vraiment une différence énorme par rapport aux autres qui sont à peine visionnées. La vidéo 2, c'est les conseils qui sont dans la page d'accueil, les 4 conseils. Puisqu'en plus, les gens n'ont pas besoin d'avoir des codes, et certains ont peut-être buté par rapport aux codes, ils sont sur les 4 conseils. Vidéo, après il y a toutes les vignettes de l'accueil où il y a Patrick, Frédéric avec un certain nombre de réactions. Alors ça montre bien que là il y a une place préférentielle et que peut-être qu'il faut l'occuper très stratégiquement. La 4, c'est l'activité de Séverine, c'est-à-dire l'activité 2 qui apparaît comme 4e vidéo la plus consultée. Après le vécu de Romain, c'est pour ça que j'insiste un peu, le vécu de Romain il apparaît en 5, ça veut dire qu'il est quand même très consulté mais pas systématiquement. Et il faut avoir ce type de recherche qualitative, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo en classe sans jamais associer le vécu de Romain. Pour moi, ce sont deux pièces jointes, en tout cas deux faces d'une même pièce. Et vous l'avez tout à l'heure, vous avez insisté sur le potentiel de travailler sur les deux en même temps. Et l'autoconf est peut-être très révélateur, ou en tout cas favorise ce type de raisonnement. Et apparemment, c'est pas forcément le cas dans l'utilisation. Et puis après, on a Romain trois mois plus tard. Donc il y a bien vraiment une volonté de voir Romain trois mois plus tard. Et elle le dit dans tout à l'heure, elle l'a dit, je veux aller voir plus loin. Et après, c'est ici l'activité 6. Alors si je résume, c'est quand même un peu les extrêmes qui sont repérés, préférentiellement les activités en classe, et peut-être beaucoup moins de temps sur les activités d'autoconfrontation. Si je prends ça comme ça, de façon un peu brutale, c'est pour montrer que si nous, on n'a pas des guidages, s'il n'y a pas tout un travail d'étayage, et si nous, dans la plateforme, on ne réfléchit pas à la disposition même ergonomique pour pouvoir privilégier certaines pistes, ou en tout cas les quatre conseils servaient à ça, mais c'est peut-être pas suffisant, on voit des pratiques qui sont peut-être éloignées de Chloé, j'arrête, qui est certainement quelqu'un d'assez remarquable, qui a été une des premières à accepter au mois de juillet de passer deux heures à se remettre en mouvement alors qu'on aurait pu imaginer l'inverse. Donc on est quand même sur quelqu'un d'assez exceptionnel, qui ne montre pas certainement l'enseignant lambda qui va aller beaucoup plus vite, en tout cas sur l'usage des vidéos. Et la situation forçait en plus à cette durée, à ce travail-là.
Ouais, je voudrais revenir sur l'idée de construction et de développement de compétences professionnelles. Il me semble que effectivement, si on a une conception située de la compétence, c'est-à-dire comme étant la capacité à mobiliser à bon escient des savoirs, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être dans la contingence dynamique de la situation d'enseignement-apprentissage qui est toujours confrontée aux aléas d'un certain nombre de contraintes qui se construisent in situ ici et maintenant qui peuvent être que partiellement anticipées. On pourrait dire que effectivement là, on a l'acquisition peut-être, où on voit le témoignage d'une compétence professionnelle, qui est celle inhérente à la capacité à se former, innover, parmi les 12 compétences, les 10 compétences des enseignants. Mais on sait très bien que réfléchir sa pratique n'impacte pas le développement de pouvoir d'action en situation de travail. Et que donc il faut bien la mesurer que NeoPass ou n'importe quel usage de vidéo est un outil au service d'un dispositif de formation qui doit être mis en relation avec un suivi de ce qui est appris à ce moment-là. On pourrait dire qu'il y a de l'apprentissage. En quoi cet apprentissage, il va se pérenniser et s'ancrer sur une capacité à agir ensuite en situation de travail. Donc ça met bien en évidence les limites qui pourraient être de considérer que NeoPass, comme n'importe quelle plateforme où il y a de la vidéo, viendrait se substituer à des dispositifs de formation alternés, d'analyse et de réflexion de la pratique et de suivi in situ de la capacité à utiliser ces nouvelles connaissances pour agir autrement face aux aléas de la situation de travail. Voilà. Donc, il y a, à mon avis, là, il y a de la construction d'une compétence professionnelle, mais qui n'est pas la compétence professionnelle située en situation de travail, puisque là, c'est une situation de formation.
Alors, ce que je vous propose, c'est de prolonger un petit peu au travers de quelques diapos qui présentent quelques résultats, d'alimenter un petit peu les échanges et de revenir sur quelques questions que vous avez, quelques questions ou commentaires que vous avez réalisés. Alors, juste sur cette histoire du développement, moi, j'ai prévu, mais j'ai pas eu l'occasion encore pour des tas de raisons qui sont mon indisponibilité à moi, mais aussi la sienne en tant que néo-titulaire. On est en contact et normalement, ce qui est prévu, c'est que je la suive, je fasse cet accompagnement-là, mais d'un point de vue recherche, en situation de classe, hein, et pour voir des liens possibles ou qu'elle aurait fait, voilà, entre ces explorations-là et puis son activité en classe. Alors rapidement, mais je ne vais pas rester là-dessus, c'est simplement pour vous montrer en fait les personnes que j'ai mis un peu dans cette même situation. Donc il y a deux stagiaires et puis il y a quatre formateurs, vous voyez, qui ont des profils un petit peu différents. Si on a le temps, je vous montrerai quelques extraits très courts de ce qu'ils disent sur les usages possibles de cette plateforme. Après, sur l'objet d'étude, mais là aussi je vais passer assez vite. Donc moi, j'essaie d'articuler le cadre d'analyse du cours d'expérience des utilisateurs de Neopass à partir du Synexadic, voilà, que vous avez sans doute eu et qui vous a été un petit peu présenté, et de croiser ça avec des processus mimétiques qui sont issus de cadres d'analyse de la fiction, puisque là, l'idée, je me situe d'emblée dans cette approche-là, de dire que finalement, on met les acteurs là dans un processus de fiction, de s'immerger dans un contexte, de faire comme si ils étaient à la fois enseignants, ils étaient dans la situation, et de produire une activité à partir de ça, comme un spectateur finalement, hein, quand on est devant un film. Donc il y a des questions, est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas? C'est déjà une première question, selon le... Et bon, il me semble, on voit bien là que ce que je vous ai montré, c'est les premières minutes que vous avez vues. On voit que ça démarre immédiatement. Il n'y a pas d'interrogation sur mais c'est quoi l'intérêt de la vidéo, etc. Et sur ce que j'ai vu dans les, évidemment, quand on est sur des activités typiques, ça pose la question de qu'est-ce qu'on montre, évidemment. Quand c'est issu de la recherche, moi, ce que j'ai, l'expérience que j'ai en formation, etc. Finalement, génère assez facilement ces effets-là, parce qu'on est centré, évidemment, sur des choses qui sont quand même assez cruciales dans le développement professionnel. Et aussi parce que là, on est sur des niveaux, évidemment, de pratique qui ont une proximité avec les façons de faire des collègues. Et puis, donc, c'est de travailler sur les postures empathiques. Hein, donc, ça a été bien repéré, hein, la façon dont elles s'immergent dans la situation, à la fois en prenant le point de vue des élèves, mais aussi le point de vue de l'enseignant, en articulant les deux, enfin, de manière un petit peu dynamique. Et puis, qu'est-ce qu'elle construit à partir de cette, finalement, d'une modélisation mimétique, là, de l'activité professionnelle. On n'est pas sur une modélisation abstraite à partir de règles, mais ça se traduit dans des tas d'indices perceptifs qu'il faut associer, mettre en relation avec ces façons de faire. Mais aussi, et vous allez le voir, avec les significations, évidemment, c'est pas simplement chercher à repérer des façons de faire uniquement comportementales. On va voir que c'est beaucoup sur construire, finalement, c'est quoi le sens de cette posture physique à certains moments, ou de ce qu'il est en train de faire. Quel est le sens que lui donne, évidemment, l'enseignante ou la personne qui consulte la vidéo. Alors, rapidement, de manière générique, sur la consultation de Chloé, quelques données chiffrées sur... Donc ça, c'est sa navigation, finalement, dans son heure 52, là, qui intègre les commentaires. Hein. En fait, elle a 11 minutes de vidéo sur vidéo de classe sur Romain, 7 minutes sur les écrits, sur les composantes de l'activité de Romain. Ensuite, 27 minutes sur l'entretien vécu professionnel. Voilà, etc. Et puis après, elle a exploré des commentaires d'experts, d'expérimentés, et une autre vidéo, celle de Nora. Donc là, vous verrez, dans ce qui ressort dans la deuxième partie, qu'elle fait des comparaisons intéressantes, et je l'évoquais rapidement tout à l'heure, de voir deux façons de faire un petit peu contrastées, mais pas trop non plus, par rapport à ce que disait Luc là sur les consultations qui vont voir le premier et le dernier. Je suis pas sûr que ce soit là qui ait le plus de potentiel de développement, évidemment, professionnel. Ça sera plutôt d'en trouver de se situer dans des espaces où on se reconnaît un petit peu dans les deux, quoi, et on est à l'interface des deux. Et elle, c'est ce qu'elle fait en consultant à la fois Romain et Nora, et là, elle construit des choses dans cette comparaison. Donc, vous voyez, 33 minutes, ça correspond à peu près au pourcentage, hein, une trentaine de pourcents de temps passé à la consultation de vidéos de classe, si on intègre l'ensemble, hein. 42%, hein, donc une part importante du vécu professionnel, donc ça c'est intéressant, puisque on voit bien que c'est là où elle construit pas mal de choses en relation avec sa propre expérience professionnelle. Et 25% sur les vidéos de les commentaires d'expérimentés. Et simplement 7% sur les écrits. Dans une exploration libre, hein, c'est-à-dire que moi je l'ai laissé faire, là je lui ai imposé aucune consultation. Alors, ce que je peux dire de manière assez rapide, c'est que la vidéo, là, dans ce cas présent, joue vraiment son rôle d'amorce observationnelle, vous l'avez indiqué. L'enseignante se prend au jeu, elle est présente en quelques secondes dans cet univers fictionnel. Elle venait de faire tout autre chose, et voilà, en quelques secondes, elle est dans la classe, et ça induit, au bout de quelques minutes, une activité fictive où elle se projette à la fois dans la classe où elle reconstruit des indices perceptifs et dans sa propre classe, puisqu'en parallèle, elle est tout le temps un peu dans ces deux registres-là. Alors, si je le détaille, mais très rapidement, puisque vous l'avez bien repéré, mais à partir de l'analyse du cours d'expérience, par exemple, on voit bien qu'elle se focalise sur des comportements d'élèves et du groupe classe. Les élèves assis, d'autres non, le sac qui vole, les élèves libres pendant 5 minutes, Mohamed n'écoute pas l'interpellation de l'enseignant, expression des visages, petit jeu, filles, garçons séparés, etc. Donc elle prend des indices globalement très rapidement sur les premiers moments, sur l'activité des élèves, et puis assez vite, évidemment, en parallèle, sur le comportement de l'enseignant, pour aller au final mettre en relation, au bout de quelques minutes, les comportements d'élèves et le comportement de l'enseignant et les effets sur l'activité des élèves. Hein, où elle dit, elle identifie une posture de retrait, main derrière pour montrer j'attends le calme, et elle l'aperçoit comme inefficace par rapport à ce que ça génère comme effet sur l'activité des élèves. Prise à partie des élèves les plus agités, mais qui reste relativement inefficace parce qu'en fait il ne l'écoute pas. Enfin, c'est pas élève interpellé continue son activité comme si rien n'était. Voilà. Et puis elle aussi voit des choses qu'elle n'aurait pas laissé passer. Donc elle se projette elle-même dans la classe en disant ben là cet élève qui celui-là je l'aurais interpellé déjà depuis une ou deux minutes quoi. Et elle donne des pistes par rapport à ça. Voilà, et donc elle donne des pistes, elle imagine des alternatives, quand elle me dit, j'ai dit, toi, tu aurais fait quoi, etc., elle me donne des pistes d'intervention. Alors, vous voyez, c'est important ça, parce qu'on va voir que ça va évoluer, ça, ce qu'elle va construire dans le fil de sa navigation dans Neopass. À ce moment-là, elle dit, dans cette situation, je ferai ressortir et rentrer tout le monde. Mais elle fait pfff. Alors moi, je l'interprète, elle est relativement peu convaincue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de l'exploration, elle voit bien que c'est une situation pas viable, peu viable, mais elle n'a pas trop de pistes quand même. Elle commence à, à la fin de l'entretien de Romain, de pointer l'idée que les savoirs, enfin en jouant sur les savoirs très tôt, ça peut avoir un impact. Mais ça, elle le construit, parce qu'en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était pas tout à fait son point de vue au départ. Donc il y a cette idée-là qui commence à émerger, et vous allez voir, ça va être repris dans ce qu'elle va construire avec les expérimentés. Donc ça, je passe. Alors, sur l'importance de l'accès au vécu de l'enseignant, qui occupe 42% de son temps de commentaires et d'exploration, vous avez vu qu'elle s'interroge. Donc là, quand on parle d'attitude empathique, il y a à la fois le versant, évidemment, se mettre à la place, se vivre d'une certaine façon ses émotions. Elle dit je le vivrai mal, je suis inquiète pour lui, etc. Mais ça se limite pas à ça, évidemment. Dans l'attitude empathique, là, ce qui nous intéresse, c'est le fait de pouvoir se projeter dans les intentions de l'enseignant et de voir ce qu'il est en train de faire. Donc là, elle se demande, je ne sais pas trop, est-ce que c'est volontaire finalement de les laisser s'exprimer, d'attendre que ça se passe comme ça, et puis qu'après il sait d'une certaine façon qu'il va pouvoir reprendre la main avec une petite formule et que ça va être efficace. Un peu plus tard, quand elle naviguera par exemple entre les deux vidéos, c'est ce qu'elle fera systématiquement. Elle ira rechercher le vécu de Nora pour comprendre, parce qu'en fait, après avoir exploré le vécu de Romain, elle s'est rendue compte de la richesse de ses commentaires. C'est-à-dire que là, elle a beaucoup mieux compris le point de vue de l'enseignant, à plusieurs reprises. Il y a des choses, comme ce qu'elle évoque ici, elle comprenait pas certaines interpellations qu'il a faites, par exemple, à un élève à un moment donné. Elle le comprend pas quand elle voit que la vidéo de classe. Quand elle entend les commentaires de Romain, du coup, elle comprend dans quel posture il est, ce qu'il cherche à faire au travers de cette interaction-là. Et du coup, d'avoir construit ça, ça l'amène systématiquement plus tard, quand elle va avoir une autre vidéo, celle de Nora, à vouloir d'abord aller voir ce que dit Nora avant d'aller voir des points de vue d'expérimenter. Alors, ça lui permet, évidemment, en faisant ça, de comparer les préoccupations entre les deux enseignants. Et elle va pouvoir comparer. Alors Nora, je ne sais pas si tu en as parlé. Non. D'accord, il savait tout. Alors Nora, vous voyez qui c'est? Nora, Luc. C'est activité 3, c'est l'écrit, rentrer par l'écrit, écrit contrôle. Voilà, mais ce n'est pas trop là-dessus qu'elle va comparer. Elle va comparer surtout sur le début de classe, parce que vous avez vu que ce qu'elle a perçu là dans le démarrage de la situation, c'est que en fait Romain là il maîtrise pas l'entrée du tout dans la classe et évidemment en comparaison avec ce que fait Nora qui elle est dans le sas d'accueil qui accueille individuellement en anglais chaque élève, donc là il se rend compte que alors ce qui est intéressant c'est pas simplement là encore une fois les façons de faire qu'elle regarde, c'est pas simplement, même si ça le repère de manière évidente, que l'enseignant, dans un cas, il va d'emblée se mettre, il tourne le dos aux élèves quand il rentre dans la classe, et il va d'emblée se mettre dos au tableau, les bras croisés, et dans l'autre cas, l'enseignante est dans le sas, accueille les élèves en disant un bonjour en anglais. Mais, en fait, elle recherche le sens derrière ces façons de faire qu'elle a trouvées chez Romain, et qu'elle retrouve chez Nora, où elle voit bien que Nora, là, ça signifie quelque chose de faire ça. C'est pas simplement l'histoire de dire bonjour. C'est l'histoire d'assurer cette transition, de s'adapter à l'état des élèves à ce moment-là, qu'il y a tout un jeu d'adaptation qui se fait déjà dans ce sas où elle évoque l'idée que les élèves jouent avec cette situation. Bon, voilà, c'est tout ça. Et donc, elle en déduit, elle, que il y a une grosse différence sur la façon dont Nora et Romain anticipent la classe. Dans un cas, Romain, il a passé son week-end à préparer de manière didactique et uniquement sa séquence d'allemand. Mais en fait, dans la classe, il ne s'ouvre pas à ce qui va se passer. Dans l'autre cas, Nora, c'est presque l'inverse. Elle se focalise sur ce qui se joue là, ici et maintenant, dans l'entrée de cours. Bon, ça lui permet, vous l'avez entendu, de confronter ses façons de faire avec celles de l'enseignant. Hein. Ben là, je suis d'accord, et puis là, je partage, mais là, elle nuance par rapport à un certain nombre de propos de Romain. Et puis, ça réinitie aussi des questionnements sur sa propre pratique. Elle revient sur l'idée, évidemment, qu'il y a une préoccupation des néonotutulaires sur la question du vouvoiement, sur comment elle va se positionner par rapport à ça, sur comment elle va, voilà. Donc leur rôle, leur crédibilité professionnelle, étant jeune, étant débutant dans le métier, voilà, dans des contextes potentiellement difficiles. Bon, ça réinterroge, ça remet en mouvement un peu toutes ces questions. Alors, elle valide aussi un certain nombre d'interprétations. Alors, je suis en train d'essayer de me remémorer ce que ça veut dire, le Donc là, par rapport à l'autre vidéo de Romain II, on est complètement sur l'intérêt pédagogique. Ah oui, donc c'est là, en fait, elle repère la différence entre la vidéo de Nora, qui est factice en termes d'intérêt pédagogique, puisque c'est un écrit contrôle qu'elle présente, un écrit sanction, et elle l'explicite même dans l'autoconfrontation. Ça confirme ça, et qu'elle compare avec la vidéo de Romain II, qui est plus là sur une entrée, pédagogique, puisque là, d'emblée, il met les élèves face à une vidéo en allemand, etc. Il leur demande un travail directement sur le plan de connaissances liées à la discipline. Voilà. Et puis, elle développe aussi toute une réflexion sur la connaissance de soi en tant qu'enseignant. Et là, elle voit des grosses différences également entre Nora, qui se dévoile sur comment elle se sent, elle se perçoit dans la classe, et qui a développé des formes de stratégies qui lui permettent d'anticiper des états affectifs quand elle sait qu'elle commence à être plus en état d'interagir de manière sereine, calme avec les élèves. Elle a des stratégies de secours qu'elle a développées pour éviter qu'elle parte dans des façons de faire qui seraient un peu incontrôlées. Donc ça, ce discours-là, elle va rechercher ça de manière, vous allez l'entendre, de manière assez systématique dans le vécu des enseignants. C'est comment, en fait, c'est pas simplement comment ils font, c'est comment ils vivent la situation d'être enseignant et de vivre la classe, l'heure de classe, mais aussi le métier, hein, de manière plus longue. Voilà. Alors, avant d'aller sur cette diapo, je vais vous montrer justement ce qu'elle construit à partir de... Donc, la suite à partir des expérimentés.
Et ça, c'est important pour toi ?
Bah oui, parce que je me dis Anne-Laure, parce que Anne-Laure, elle a l'air d'avoir plus mon âge que Jacinthe.
Ah d'accord. Et ça, c'est important pour toi ?
Bah oui, parce que je me dis qu'on n'a pas les mêmes armes quand on n'a pas le même âge, quoi. Mm-hmm. Enfin, je pense.
Appeler tous les élèves par leur prénom. Du coup, j'essaye ça depuis peu, là. Les élèves qui arrivent de manière un peu agitée, d'une classe à l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ils sont en rang, plus ou moins. Et du coup, j'essaye maintenant, alors je ne sais pas ce que ça produit, hein, mais d'interpeller les élèves en leur disant bonjour accompagné du prénom. Alors ça va très vite, ça paraît un peu étonnant, artificiel. Et finalement, si on observe, eh ben, certains sont interpellés.
Oui, oui. Ils sont interpellés et ils rentrent dans l'affect. Mmh. Et moi, je trouve que c'est ça qui marche, quoi. C'est à un moment donné, ils sont reconnus en tant qu'individus. On leur a montré que déjà, on sait comment ils s'appellent, qu'on les attendait, qu'on est content de les voir. Et en faisant comme il fait, il se confronte uniquement au groupe classe. Mmh. Et il se coupe d'une possibilité de parler aux individus de façon à avoir un groupe classe plus disposé à l'écouter, quoi. Mmh.
Intéressant, là, ces rituels comme ça, qui marquent des moments.
Bon, là, clairement, je suis très contente parce que ça me rassure. Parce que tout ce qu'elle a dit qu'elle faisait, je le fais aussi. Donc, je me dis que, bon, finalement, ça pourra ne pas être la cata totale en septembre. Dépasser le cadrage, ça aussi, ça m'intéresse.
Alors, mon autre conviction que j'ai vue, alors là, dans l'ensemble, c'est que le calme, il arrive quand on n'est plus uniquement dans du cadrage, mais qu'on est en train de poser son objet, quand on commence à faire des maths, quand on commence à faire de l'allemand, dès qu'il prononce ses phrases en allemand, tac, instinctivement, même s'il y en a qui n'ont pas très envie de s'y mettre, bah oui, on est là pour ça. Il faut peut-être ralentir l'étirement où on n'est pas encore dans l'objet, où on est en train de se dire, de se prouver à soi-même, pour prouver à la classe qu'on est capable d'obtenir la maîtrise du silence.
Ouais, c'est ça, c'est la notion de carcan, hein, de voie sans issue. Hein, c'est vrai, moi du coup je m'interroge, je sais pas. Ça me fait m'interroger. Elle préconise de rentrer dedans, quoi, et de rentrer dans le cours. Oui. Je me dis que c'est peut-être pas idiot du tout. Et par contre, une fois qu'on est rentré dedans, d'avoir un niveau d'exigence à l'intérieur du cours, sur le niveau sonore, sur l'implication de chacun, d'être dans ce compromis-là. Mais c'est vrai que bon, j'ai 2 mois pour me poser la question, donc j'ai pas fini d'y réfléchir. Mais c'est vrai que moi, je me demande comment je vais faire. Enfin, ce coup de l'entrée, de me poster à l'entrée, de bon, ça, c'est sûr, je vais le faire. Mais après, sur le rituel de début du cours, moi, je sais pas encore comment je vais faire. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, de faire sortir tout le monde pour faire re-rentrer tout le monde, ça continue, oui, cette espèce de voie sans issue. C'est toujours pareil, hein, finalement. Déjà, ça fait perdre encore plus de temps et j'ai toujours le risque que ça fonctionne pas. Et finalement, qu'est-ce que j'y gagne? Même si ça marche, j'aurais toujours perdu 10 minutes. Et je me serais prouvé, c'est ce qu'elle dit, de gagner le bras de fer.
C'est finalement contre-productif.
Et que finalement, on doit pas affronter les élèves, on doit plutôt faire l'arbitre, en quelque sorte. Donc je trouve que c'est plus cohérent. Dans la mesure où ces élèves-là cherchent le bras de fer dès qu'on peut leur donner, je pense que c'est peut-être plus malin, effectivement, de contourner l'obstacle, quoi. En fait, je crois que je suis convaincue. En fait, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire.
5 minutes, ja? 5 minutes. Ja? Jetzt.
J'arrête parce que ça me fait sourire. C'est vrai que l'image, c'est magique. Hein. Là, franchement, là, on le voit d'ailleurs. Et je trouve que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il parle tout de suite allemand. Oui. Donc, il rentre, comme l'avait dit Jacinthe, c'est ça, oui, je ne sais plus. Il rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il distribue, j'imagine que c'est peut-être les consignes d'analyse de l'image ou je sais pas quoi.
C'est ça, tu vas le voir juste après.
Voilà, donc ça veut dire que les élèves savaient ce qui allait se passer avant de venir. Donc déjà, on crée un effet d'attente et tout ça. Ça me semble très malin.
Ok, sortez vos affaires. C'est facile, ça.
Bon, alors, on a vu... L'image, hein, ça scotche tout de suite, mais ça, on s'en lasse aussi vite que ce qu'on a commencé à regarder. Il y a quand même quelques élèves qui, tous sont pas encore sortis leurs affaires, etc. Donc bon, il y a quand même bien un flottement. Je trouve que c'est lisible là que l'image, c'est vraiment la stratégie pour foutre tout le monde au boulot et que tout se passe bien, quoi. Globalement, il circule. Il met en confiance les élèves qui sont pas encore au travail. Au lieu de leur dire bon, dépêche-toi, c'est ça, tu sais le faire, vas-y. Bon, je trouve que c'est quand même, à mon avis, c'était ça qui était le plus problématique. Donc je pense qu'en passant par là, ça doit bien marcher. Je sens que Romain, il a fait comme moi, il a regardé les conseils des collègues et qu'il les a appliqués, parce que finalement tout ce qu'on a entendu, il l'a fait, hein. Accueillir au seuil, rentrer directement dans le vif du sujet, la piste qu'il avait évoquée lui-même de passer par les TIS et de mettre directement les élèves au travail, finalement ça fonctionne très très bien. Est-ce que là il nous raconte un peu?
Non, il n'y a pas.
Parce que moi, là, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment lui se sent. Oui, mais quand ça y sera, je serais bien curieuse de voir comment il se sent. Est-ce qu'il se pose encore cette question du charisme et de pallier son manque de charisme et tout ça? Ou est-ce qu'il est dans un rapport beaucoup plus détendu au rapport à la classe, etc. Ça m'intéresse de voir. J'ai vu l'évolution de ses pratiques. J'aimerais bien voir. Voilà, tout à fait. Maintenant, j'aimerais bien voir l'évolution de sa façon de le vivre, quoi. Voilà.
Mais malgré tout, il y a un manque, par exemple. Ce que je dis, parce que moi, je m'avance là dans le, je lui dis, mais ça y sera, mais ça y est pas en fait. C'est-à-dire ce qu'elle demande. Vous avez entendu ce qu'elle demande à la fin? C'est comment. C'est pas. On voit ces évolutions de façon de faire, mais c'est comment il a évolué sur la façon de vivre la classe. Et ça, elle l'a bien repéré, parce que. Il y a eu tout un échange que vous n'avez pas là dans l'autoconfrontation où il met en question son charisme, ses problèmes d'autorité, de personnalité, etc., où il se sent pas à l'aise pour crier. Et elle remet en cause évidemment ça, cette vision-là, mais elle aurait envie de savoir comment il vit la situation en faisant comme il fait. Et on voit bien qu'effectivement, les élèves... se mettre plus vite au travail, même si tout n'est pas réglé. Mais en tout cas, il y a une ambiance quand même, une posture scolaire au moins, qui permet de déclencher un travail dans sa discipline, ce qui était moins le cas sur la première vidéo. Donc ça, c'est intéressant quand même. Et avec une autre vision, parce que j'ai pas eu le temps de le faire pour des tas de raisons, j'ai une autre néo où je pense qu'il y a des choses qui sont convergentes, pardon, mais il y a aussi des choses qui sont peut-être plus problématiques, enfin qui seraient intéressantes justement à avoir de manière contrastée des façons de se projeter ou des questionnements que suscitent. Voilà, deux façons de, avec le même type de recueil de données, quoi. Oui. Alors, il y a ça, et puis, ce qui nécessite évidemment un temps de travail plus conséquent, c'est de voir ce qui est construit dans la temporalité de cette exploration. Puisqu'en fait, si on prenait le temps, elle a pas mal évolué dans sa façon de voir ce début de classe. Hein, vous dites, mais, et elle le remet en cause elle-même. Elle dit, mais là, la première idée qu'elle avait eue de faire ressortir les élèves, etc., c'était quand même fondé sur cette idée, le rituel, l'ordre, enfin, établir d'abord l'ordre dans la classe avant de toute activité. Et puis finalement, avec les indices que lui donne Romain, mais Romain II, issu, après avoir vécu lui-même son propre développement, qui commence à évoquer des pistes, mais oui, où il dit, moi je m'en suis sorti un peu quand j'ai commencé à rentrer plus vite dans l'activité, là, poum, premier truc. Mais en même temps, elle voyait pas trop comment, voilà. Et c'est finalement, en confortant ça, avec les commentaires de Jacinthe, qui là, poum, ont marqué. Les commentaires de Jacinthe, là, ça lui a fait prendre conscience, justement, de certaines impasses dans lesquelles elle se projetait ou elle fonctionnait déjà. Et du coup, voilà, d'élaborer la piste et d'être quasiment convaincu, en tout cas, c'est justement ça que j'aimerais voir maintenant dans ces pratiques, de cette nécessité, voilà, de rentrer assez vite. Même si elle assez vite dans la discipline par des modalités après qui peuvent être variables en fonction de évidemment de la discipline. Même si elle quand même elle est vous avez vu qu'elle était consciente aussi des limites d'un usage peut-être un peu trop rapide de l'utilisation par exemple que fait Romain de voilà même si ça a des effets quand même assez importants sur la mise en posture scolaire on va dire. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne parce que ça fait une heure et quart qu'elle est dessus. Et ça fait une heure et quart qu'elle fait des liens entre sa propre expérience, la vidéo de classe de Romain en difficulté, les pistes que Romain a construites, dont elle voit les effets dans du Romain 2, les pistes de Nora sur... voilà. Et c'est par la mise en relation de tout ça qu'évidemment, à une heure et quart, je lui aurais monté tout de suite, évidemment, la vidéo de Jacinthe. Je ne pense pas que ça aurait fait du tout le même effet. Donc, c'est tout ce processus-là, évidemment, qui est intéressant, d'une certaine façon, à scénariser. Et je vais m'arrêter là, et je pense qu'on pourra continuer le débat cet après-midi sur les usages en formation, où on pourra éventuellement revoir le point de vue des formateurs, là, que je vais pas développer. Mais... voir comment justement sur la base de ces analyses d'activité ça donne des pistes pour scénariser des situations de formation évidemment qui on voit bien le potentiel avec un groupe de néo-tutélaires de travailler évidemment ces différentes questions.
Merci. Donc il y a des parcours de l'étayage pour les étudiants, les stagiaires. Et il y a une banque de ressources aussi de scénarios pour les formateurs. Et donc je trouve que ça serait une piste assez intéressante. Enfin, je pense que vous l'avez imaginé et ça sera le fruit du travail cet après-midi. Mais c'est une vraie richesse, je trouve, sur ce site, à la fois d'étayer, de guider l'utilisation du site pour l'étudiant et également pour les formateurs.
Ouais, moi c'est une interpellation un peu. C'est que c'est vrai que je trouve que Chloé arrive et enfin pour nous c'est un peu l'étudiante idéale. Effectivement, elle progresse dans son parcours, elle analyse de mieux en mieux, mais on a aussi l'impression que dès le départ, elle a des clés de lecture, c'est-à-dire elle a des concepts préalables qui lui permettent très vite d'avoir une analyse extrêmement pertinente de l'activité. Et alors évidemment, la question que je me pose, c'est bon, bah, on voit Chloé, elle est enfin, elle a fini son parcours de formation en IUFM, elle va être titulaire, enfin, elle rentre.
Oui, elle est en poste.
Voilà, elle donc elle a quand même eu aussi une formation préalable avec un certain nombre d'apports théoriques. Alors, la question aussi, c'est, bah, dans sa configuration, on voit comment elle les utilise et à très bon escient. Donc, je pense quand même que c'est une étudiante assez exceptionnelle pour analyser.
C'est une très bonne formation, l'IUFM de Montpellier. Hein.
Aussi, aussi. Mais c'est vrai que bah, maintenant, si on est dans une configuration avec des étudiants en master qu'on peut voire pas accès aux classes, qu'on pas ou peu accès aux concepts théoriques, enfin, ça pose la question de quel étayage aussi il faudrait faire en amont pour leur permettre après d'entrer avec déjà des concepts dans les vidéos.
Oui, je voudrais juste réagir par rapport à la dernière remarque qui est au bout d'une heure et demie, enfin au bout d'une heure et quart, ouais. Y a des choses qui se passent. Donc forcément, moi, ça m'interpelle. Mais je pense que tous les formateurs ici présents en sont conscients de l'accompagnement nécessaire de l'outil, ça c'est évident. Mais du coup, ça me fait rebondir à la remarque de Luc sur l'espèce de top 10. Là. Le top 10, il est fait en live. Enfin, on ne sait pas comment il est fait, mais il est certainement fait en liberté, enfin, en auto-consultation. Et là, du coup, comment les gens rentrent dans l'outil? Est-ce qu'ils y prennent du temps? Et puis, alors, est-ce que ça veut dire que c'est parce que Romain est en 1 qu'il est présenté en premier? Ensuite, est-ce que c'est parce qu'il y a un mot d'accroche sur Jacinthe qu'on y vient? Enfin voilà, ça m'interpelle beaucoup sur la manière dont les gens vont utiliser Neopass en situation libre et surtout dans la manière dont on va pouvoir, on pourrait, est-ce qu'on pourra, est-ce qu'il est possible de guider leur cheminement?
Alors, juste un élément, c'est pas un élément de, c'est un élément de réponse, mais très très local. C'est sur l'idée du lien entre Romain 1 et Romain 2, ça c'est une préconisation qui a été faite à l'issue des usages, c'est-à-dire les usages de formateurs et de Chloé. Romain 2 n'était pas associé d'emblée dans la plateforme initiale, voilà, pour faire un lien direct. Or, ce que légitimement, ce que mettait en évidence, voilà, les consultations de formateurs, il y a une, vous verrez cet après-midi si j'ai le temps, formatrice, ce qui m'intéresserait à ce moment de consultation, c'est de voir, elle me dit ça comme ça, c'est de voir Romain, 3 mois plus tard. Mais je lui dis, il se trouve que tu peux y, sauf qu'elle, elle le savait pas. Donc après, on a forcé le lien. Et on voit bien que dans les consultations, ça fonctionne quand même pas mal, puisque ce parcours-là, même s'il est pas écrit quelque part, ben, il y a des affordances là qui fonctionnent. Simplement dans l'organisation de et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement le construire et construire des scénarios qui nous semblent assez formateurs et de les proposer dans un espace formateur.
On vous signale, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Enfin, on s'excuse, mais donc effectivement cette question, elle s'était bien posée lorsqu'on avait fait Neopass. Est-ce qu'on fait des parcours imposés? Est-ce qu'on laisse tout en figure libre? On s'était dit qu'on allait déjà commencer par regarder ce que les gens faisaient, les stagiaires et les formateurs. Et effectivement, on voit bien le manque qu'il y a dans Neopass. C'est un, est-ce qu'on pourrait faire des parcours fléchés? Vous avez 2 heures à y passer, passer par là. Est-ce qu'on pourrait faire des parcours fléchés aussi pour les formateurs, avec quand même un certain nombre de risques derrière, quoi.
Les débutants vont pouvoir faire comme Chloé seul en auto-formation avec beaucoup de finesse. Et les autres, il faut les accompagner. Et quand on voit le top 10 là, je crois qu'il faut clairement considérer que ce qu'on pourra produire avec en termes de connaissances avec Chloé, avec les autres enseignants qui n'auront pas cette faculté à analyser, à faire des liens, à aller vite, il faut déterminer des parcours permettant de passer des débutants aux chevronnés débutants, aux chevronnés plus experts. Enfin, je crois que c'est bien cette alternance, cette alchimie qu'il faut arriver à constituer en formation.